et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel midi ici à Paris.
RFI midi, Anne Contner.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour 2h30 avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux. Tour de l'actualité dans le monde, actualité marquée aujourd'hui encore par la peur à Minneapolis aux États-Unis, la colère aussi après la mort d'un jeune homme samedi tué par un agent de la police de l'immigration, ICE. C'était affreux, c'était dévastateur. En particulier quand vous avez des membres du gouvernement qui vous disent de ne pas croire ce que vous avez pourtant vu de vos propres yeux. Quand vous avez tant d'images avec différents points de vue et de témoins. Indignation, car comme pour la mort de René Good il y a à peine 3 semaines, Donald Trump, lui, défend la police. Malgré les vidéos, malgré les appels de 2 anciens présidents et malgré des critiques jusque dans son camp politique. On y revient dans un instant dans le journal et longuement à 13h, temps universel dans notre revue de presse. Au sommaire également, cette purge dans l'armée en Chine. 2 généraux, dont celui qui dirige la commission militaire centrale, extrêmement puissante, viennent d'être écartés au motif qu'ils seraient corrompus. Tous les deux étaient pourtant des proches, très proches du président. On essaiera de comprendre ce qui se joue dans un peu plus d'une heure avec notre invité.
RFI midi.
En Haïti, ce sont les membres du conseil présidentiel de transition qui essaient de se débarrasser du Premier ministre. Et cela déplaît aux États-Unis tellement que Washington impose des restrictions de visa à 2 des 9 membres de ce conseil. Moyen aussi d'accentuer la pression à quelques jours maintenant de la fin théorique de la période de transition. Dans les rues de Port-au-Prince, ce sont l'inquiétude et la lassitude qui dominent.
Depuis que je vis dans ce pays, à chaque nouveau président, je n'ai jamais vu de changement sérieux. Avec ces 9 présidents, la situation s'est aggravée. À l'approche du 7 février, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais je ne voudrais pas que ces 9 présidents restent, parce que leur présence n'est utile en rien au pays.
Reportage de notre correspondant à Port-au-Prince à écouter après le journal de 13h, temps universel. On vous parle beaucoup de Goma aussi aujourd'hui, dans l'est de la République démocratique du Congo. 1 an après le début des combats entre les rebelles du M23 et les militaires congolais. Depuis, il y a eu un accord, mais le décalage entre la situation sur le papier et sur le terrain est très grand. Analyse dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel. Et tout de suite, dans le journal. Bienvenue. Votre journal, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec donc pour commencer cette date anniversaire en République démocratique du Congo.
Oui, vous l'avez dit, c'était il y a 1 an, le 26 janvier 2025. Les affrontements ont commencé à Goma entre l'armée congolaise et le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Des combats qui devaient conduire au contrôle effectif de la ville par le groupe rebelle quelques jours plus tard. 1 an après, malgré les annonces et les initiatives diplomatiques, la situation sur le terrain ne semble pas évoluer. Aucun avion ne peut encore se poser à l'aéroport de Goma, ce qui a poussé les ONG à revoir l'organisation de l'aide humanitaire. On écoute Jérôme Kouachi, le chef des urgences de l'UNICEF en RDC.
L'aéroport a été fermé dû au combat et aux engins explosifs qui ont été aussi sur la piste. Cet aéroport de Goma, il était important car c'était le point d'entrée principal de l'assistance humanitaire, que ce soit via les avions cargo ou les avions passagers, charter, pour amener les équipes humanitaires. Donc ça a produit un vrai ralentissement de l'assistance humanitaire, les approvisionnements notamment logistiques, avec un déroutement qui était nécessaire en passant par Beni, puis après par des voies routières assez compliquées entre Beni et Goma. Aujourd'hui, il y a plus une réduction de la présence humanitaire car le routing entre Kinshasa et Goma n'était plus direct et se faisait via des vols internationaux. Donc l'impact, il est assez clair sur une réduction de la présence humanitaire et aussi sur une augmentation des coûts de l'assistance humanitaire car des coûts logistiques multipliés. En lien avec la crise financière que vit aussi le système humanitaire aujourd'hui. Donc la conséquence est assez difficile aujourd'hui à vivre pour tous les acteurs.
Le chef des urgences de l'UNICEF en RDC, propos recueillis par Paulina Zidi.
Les États-Unis n'en ont pas fini avec l'onde de choc provoquée par les événements de Minneapolis.
Cette ville de 400 000 habitants dans le Minnesota cristallise les tensions et même la fracture qui s'élargit entre les deux camps, les tenants du nationalisme et du rejet des migrants et ceux qui au contraire prônent les valeurs démocratiques et l'ouverture. Parmi ces derniers, les anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama, tous deux ont pris position après la mort d'un 2e citoyen à Minneapolis tué par la police fédérale, appelant les Américains à défendre leurs valeurs. Ils réagissaient à des violences que Donald Trump lui impute au chaos créé par les démocrates. Un président sous tension, Edouard Maille, les critiques se multiplient, y compris venant de son propre camp.
À commencer par la NRA, le plus puissant lobby pour les armes à feu. Chose rare, celle-ci a dénoncé dans un communiqué la position du gouvernement qui estimait qu'aborder un agent avec une arme sur lui était une provocation, alors qu'Alex Pretty portait une arme à sa ceinture en toute légalité. Le lobby a dit qu'il ne fallait pas diaboliser des citoyens qui respectaient la loi. Et puis au Congrès, plusieurs élus républicains ont demandé une enquête impartiale et pour rétablir la vérité. L'ancien allié de Donald Trump, désormais critique du président, Marjorie Taylor Greene a dit sur le réseau X que tout en soutenant la politique d'expulsion de migrants en situation irrégulière, que porter une arme n'est pas la même chose que la brandir et qu'il n'y avait rien de mal à manifester pacifiquement et prendre des vidéos. Et dans une interview au Wall Street Journal publiée ce dimanche, Donald Trump n'a pas pris position sur si les agents avaient bien fait ou non et a affirmé que les agents de l'ICE finiront bien par quitter Minneapolis, une position nettement plus nuancée que celle répétée par son gouvernement hier. Édouard Maï, Minneapolis, RFI.
Sur place à Minneapolis, toujours, ils étaient nombreux malgré le froid glacial hier soir à se recueillir devant un mémorial de fortune dressé en hommage à Alex Pretty, cet infirmier de 37 ans tué par balle samedi. Au cœur de cette vaste polémique qui actuellement secoue les États-Unis, il y a la très décriée police fédérale anti-immigration ICE. Aux yeux d'un spécialiste, le vrai problème à son sujet est le recrutement de ses membres. On écoute Lorik Henton, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin.
Le problème de ICE actuellement, c'est que ils ont des objectifs d'expulsion qui sont absolument faramineux, qui sont pas réalistes avec leur main-d'œuvre actuelle, et donc ils sont obligés de recruter. Ils recrutent à tour de bras n'importe qui, des gens qui sont juste qui ont envie d'en découdre un peu profil hooligan, et ils leur mettent des armes dans les mains, ils recrutent sur les stands de tir, et donc les gens sont beaucoup moins formés que c'était le cas avant. Le problème c'est pas ICE, c'est le changement dans ICE, c'est le changement de la montée en puissance, et c'est ça, c'est les nouveaux membres de ICE qui ne vont pas en fait, ils sont pas formés, ils ont pas un profil qui va vers la désescalade, on va dire.
Lorik Henton, spécialiste des États-Unis avec Muriel Parra. Dans le conflit ukrainien, la réaction en demi-teinte de la Russie aux négociations qui viennent de commencer à Abu Dhabi. Elles se sont tenues dans un esprit constructif, a salué ce matin le porte-parole du Kremlin. Ces pourparlers tripartites doivent reprendre cette semaine aux Émirats. Ce sont les premiers pourparlers directs et connus entre Moscou et Kiev sur le plan américain. Le Kremlin a réaffirmé que la question territoriale demeurait fondamentale pour Moscou qui, rappelons-le, revendique l'ensemble du Donbass.
Les États-Unis ont commencé à transférer vers l'Irak des prisonniers étrangers suspectés d'appartenir au groupe État islamique et qui étaient détenus jusque-là en Syrie.
Oui, l'objectif américain, c'est de transférer jusqu'à 7000 personnes, jusqu'à présent détenues dans des prisons syriennes. Les forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, et le pouvoir de Damas, dominé par les islamistes, ont pris le contrôle des premières prisons de façon désordonnée et Washington s'en inquiète, comme l'explique Wassim Nasr, journaliste à France 24.
Les États-Unis n'ont pas du tout apprécié le fait que le camp d'Al-Hol, où il y a les familles des djihadistes, et la prison d'Al-Shaddadi ont été laissées par les forces kurdes et n'ont pas été rendues en monnaie due forme aux autorités syriennes. Le laps de temps qu'il y a eu, il y a eu des fuites, il y a eu 90 personnes rattrapées sur 150 à peu près, mais à Al-Hol, il y a eu quelques familles qui ont fui aussi. Donc je pense que la décision de les transférer au cas où les combats arrivent à Zakeh a été terrible. Prise un peu de manière urgente, disons. Le transfert des prisons fait partie des accords signés le 10 mars 2025, que toutes les prisons et tous les camps doivent être transférés à Damas et pas juste abandonnés et attendre que les forces de Damas arrivent. Donc je pense que le fait ça a été le cas. Après, d'un autre côté, les forces kurdes qui voulaient défendre leur secteur, ça se comprend aussi qu'ils abandonnent les facilités de détention et qu'ils utilisent aussi ce facteur comme facteur de pression sur les États-Unis. Et c'est par ailleurs comme ça qu'ils ont gagné les 4 jours de trêve et puis maintenant renouvelé pour 15 jours. Ça ne pouvait pas se passer autrement.
Le journaliste de France 24, Wassim Nasr, spécialiste des réseaux islamistes. Au Brésil, la foudre s'est abattue près d'une manifestation de partisans de l'ancien président Bolsonaro. Il y a près de 100 blessés, dont la moitié a dû être hospitalisée. La marche était organisée pour réclamer l'amnistie de l'ancien président d'extrême droite, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.
En France, ouverture ce matin à Paris du procès en appel des assassins de Samuel Paty.
Oui, 4 personnes comparaissent jusqu'au 27 février devant la cour d'assises d'appel spéciale. Les accusés ont été condamnés en première instance à des peines allant de 13 à 16 ans de prison. Ils avaient participé à l'assassinat du professeur d'histoire géo, mort décapité par un islamiste tchétchène. C'était en octobre 2020. Autre procès à Paris, celui-ci est prévu pour...
bin ein Berliner.
Peu importe quoi que ce soit, moi je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique. Ça. Vous voyez, à la force de vouloir de. Alors tout le monde va parler. Or malheureusement, parler c'est un art.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Très bien, nous allons essayer de ne pas lambiner, ne pas tergiverser, ne pas nous égarer.
Principe Actif, le mix des cultures.
dire qu'il fallait pas décourager ceux qui croient ou chantent l'impossible. Mais le soulèvement n'aura pas lieu. Ce soir, y'a un match de Champions League. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. En théorie, le soulèvement n'aura pas lieu. Le savoir, c'est bien. Les armes, c'est mieux. L'impression d'entendre toujours le même son mort. J'suis au fond, j'somnole. Pendant que devant des mecs, mecs, some noise. Aime qu'on leur passe du monoï. Qu'on leur promette un soleil par personne. En plus, c'est eux qui te snob. Avec leur gueule à faire du snowboard. Et des cunis à la Sorbonne. Donne bonne conscience. En se rattachant à une soi-disant cause noble. Sans que les premiers concernés le cautionnent. Ne s'expriment qu'avec des consonnes. De fond consommer un dictionnaire avec que des mots que tu connais. Tout plein de moi je sais. Déclassé par des vendeurs de H2C. Qu'auraient pu sortir d'HEC. Encore faut-il y rentrer. La dèche aurait raconté des choses quand tu te serais déchaussé. Ils sont de mèche, on la coupe qui va avec. Ne s'aventure pas dans le froid tant que leurs cheveux ne sont pas secs. Toi t'as la tête qui fume. Son expérience de la rue se résume à avoir chopé un rhume. Mais il prépare slogan et banderole comme pour aller supporter son nouveau messie qui joue à Barcelone. Font rire ceux qui combattent Babylone en s'envoyant leurs idées via le dernier iPhone. Nous dans cette faux nom se faufilent sous des faux noms. Eux galèreront seulement pour se faire un prénom. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. En théorie, le soulèvement n'aura pas lieu. Le savoir c'est bien, les armes c'est mieux. L'impression d'entendre toujours le même mot d'ordre. Ça y est, je m'endors, réveillez-moi quand vos couilles auront appris à mordre. Continuez de jouer avec une balle qui s'amortit. On a du style, même nos peines sont assorties. Quelques bibelots, une bible, une bibliographie. Mais t'as rien compris à la pensée de Krishnamurti. Et là je croise une de ces hippies merdiques. Lui dit que je suis passionné de business. IPMD, d'épidémie, et puis MD. Je dois aimer mes pires ennemis. Quand dépine mes déprimes, j'en laisse pas finir. Bing, réaction épidermique. Déjà que je me lève, il fait nuit. C'est pas pour qu'une alter mondialiste me conseille de conduire un Fenwick. Les conditions, ça les fait tout le temps fuir. Les convictions d'un végétarien, ça pète tout en cuir. Eux qui pensent que je me dis que je dépense, donc je suis. Je mets la main dans ma poche, ne sens qu'un os derrière ma cuisse. Si peu réceptifs, on parle de langues pas étudiées dans nos mondes respectifs. Impossible qu'ils nous ouvrent, on sert pas la pogne à un fusil de chasse calibre 12 au pays des bisounours. Le tout dans un étui de guitare, qu'il soit sans histoire, pas normal pour un fils de 68 ans. J'sais rafistoler des chrysanthèmes pour celui dont le poing levé sert à fister sa clientèle. Nous aussi on pensait être belles, bourrés dans la rue, à péter des rétros, renverser des poubelles. Dommage pour ceux qui croient ou chantent l'impossible. Le soulèvement n'aura pas lieu, y'a un match de Champions League. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. En théorie, le soulèvement n'aura pas lieu. Le savoir c'est bien, les armes c'est mieux.